La photo de couverture et tout, ça fait très discours, proclamation, je suis candidat officiellement. Ça fait, je pense, 400 pages. Ça fait sérieux.
Ça y est, il est en train de se préparer, oui, c'est normal. Vous avez vu les juges ? Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Sarkozy ? Vous croyez que Le Pen va y échapper ?
Deux supporters de Jordan Bardella hier soir au théâtre Marigny, des propos recueillis par la journaliste d'Inter, Lise Rosevale. Un livre qui fait sérieux et un candidat qui se prépare parce que ses juges tatillons et politisés ne lâcheront pas Marine Le Pen. Amateur de belles lettres, réjouissez-vous. Car Jordan Bardella sort son deuxième livre en 2 ans. Spoiler alerte, c'est pas du Romain Gary, mais ça risque à nouveau de bien se vendre. Alors qu'est-ce qu'il peut avoir de si nouveau à raconter le Jordan ? C'est ce qu'on va voir avec celle qui s'est sacrifiée sur l'autel du Gai Savoir et qui a lu le pavé pour nous. Blanche Léridon, plutôt Sainte Blanche Léridon, bonjour.
Bonjour, vous êtes... Mathieu Noël.
Merci d'être là. Vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, spécialiste des questions démocratiques et institutionnelles. Et surtout, vous êtes maso, puisque vous avez accepté de lire, qui plus est gratuitement, ce que veulent les Français. C'est le nouveau Bardella qui sort aujourd'hui même chez Fayard. Auteur prolixe que ce Jordan Bardella, puisque l'an dernier, il sortait son autobiographie Ce que je cherche, vendu à plus de 200 000 exemplaires. Et comme entre Bardella, De Villiers et Zemmour, on assiste actuellement à un véritable embouteillage de livres de personnalités d'extrême droite, on va se poser la question, pourquoi une telle profusion d'écrits politiques ? Comment Jordan Bardella est-il devenu la nouvelle star de l'édition ? Qu'a-t-il, ce qui fait visiblement beaucoup rire déjà Cyril, qu'a-t-il à raconter aux Français du haut de ses 30 ans ? Et qu'est-ce que ses lecteurs attendent ? Vous allez nous le dire. Mais déjà, vous êtes d'accord avec ce que dit un de ces deux spectateurs de cette soirée de lancement ? La couverture du livre de Jordan Bardella, ça fait proclamation de candidature officielle, ça fait sérieux.
Absolument, et je suis très contente qu'on puisse commencer par là. On est à la radio, mais il faut en dire un petit mot.
Il faut la décrire.
Sur cette couverture, on voit un Jordan Bardella de 3/4 avec un air très sérieux. C'est pas anodin, il y a un certain nombre de petits éléments dans le décor, et notamment ce sous-main en cuir vieilli. Cette bibliothèque en fond, dans des couleurs sombres, en marron, avec, on l'imagine, des ouvrages très sérieux qui l'entourent. Ses lunettes négligemment posées à côté de son bras gauche. Et puis il regarde, ce qui est probablement une missive d'un Français qui s'est adressé à lui. Donc oui, il y a cette volonté, et on va beaucoup en parler je pense aujourd'hui, avec ce sésame qui est le livre politique, de créer une espèce de légitimité et de montrer que oui, lui, comme énormément de ses prédécesseurs, puisque tous se sont livrés à un exercice similaire, eh bien il est sérieux, il est au travail, à son bureau, et il a cette stature présidentielle et il l'assume par ce livre notamment.
Que contient le nouveau livre de Jordan Bardella ? Qu'a-t-il appris de si décisif en l'espace de 11 mois qui justifiait d'abattre une forêt primaire d'Europe centrale pour sortir un nouveau pavé de 400 pages ? Une chose est sûre, ce que veulent les Français se vendra mieux que ce que veulent les Françaises. Le dernier livre de Cyril Lacarrière qui, disons-le sans tourner autour du pot, a fait un flop. Seulement deux exemplaires vendus, son boucher, Denis Chénet, et son ami Pascal Praud, qui le félicitait ce matin dans son édito sur CNews de, je le cite, « remettre l'église du bon sens au milieu du village du Woking ». Alors pourquoi cet ouvrage engagé ? Déclaration d'amour aux femmes dont la couverture elle aussi était sérieuse puisqu'on y voyait Cyril retourner une chipot devant un barbecue fumant tout en fixant l'horizon d'un air de défi, une pipe à la bouche. Était-ce peut-être la préface de Jean-Luc Lahaye qui était de trop ? Peut-être, on ne le saura jamais. Les 50 autres exemplaires produits ayant été envoyés au pilon. Par rancunier, Cyril aurait déclaré à son éditeur « c'est bon les pilons ». Zoom, zoom, zen, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter l'actu sans oublier d'en rire, même si cet après-midi, nous disons adieu à un camarade dont les déboires ne sont pas que littéraires, puisque demain, il dormira dans une cellule du quartier VIP de la santé, près de son idole, Nicolas Sarkozy. Car oui, la France doit savoir, il était 18h27 hier, et ceci est vrai, quand les sirènes de la police ont retenti sur les quais de Seine. Un forcené de la route venait de prendre, sous les yeux des keufs, une voie de bus. Ce chauffard sans gêne, qui avait pourtant vu les policiers à moto, sachant qu'ils étaient à notre niveau au feu rouge juste avant et que je lui avais fait remarquer leur présence d'un rapide geste complice, illustration terrible du fait que son cerveau aussi est en compote, pas seulement son dos, ce chauffard sénile, c'était donc, vous l'avez deviné, le rédacteur en chef de cette émission, Cyril Lacarrière, qui à sa décharge n'était même pas sous l'emprise de stupéfiants alors qu'il s'est engagé sur cette voie de bus. Pourquoi ? Eh bien, comme le délit routier que je viens de raconter est 100% véridique, la parole est à la défense. Cyril, racontez-nous s'il vous plaît la suite. Moi j'ai juste entendu les sirènes hurler, je me suis dit ah non le con.
Alors déjà moi j'ai mis du temps à entendre les sirènes parce que j'écoutais autre chose dans mon casque.
En plus il est tombé quelque chose.
Oui, c'est interdit.
Bon, bah, j'écoutais un podcast. Vous avez déjà pris un
bon. J'arrive au bout et j'entends effectivement les sirènes. Du coup, je me rabats la police arrive à côté de moi, deux motards, et ils me disent qu'est-ce que vous venez de faire. Je dis ah, il y a du monde là, franchement, c'est trop compliqué d'attendre. Quoi. Oui, j'arrive ça. Et le gars me dit, je me prends une amende, et il me dit vous allez vous arrêter un peu plus loin, comptez jusqu'à 60.
Quoi ?
Le temps que vous auriez perdu ou gagné en fonction d'avoir pris cette ligne de bus. Ah. Et après vous repartez et je vous regarde.
Hein. Ah, il vous a puni.
Je dis, il me dit c'est ça ou 90 euros. Je dis ok,
vous êtes arrêté.
Je me suis arrêté. Je me dis je m'arrête là-bas. Je me dis oui, arrêtez-vous là-bas. Je me suis arrêté et j'ai été collé, mais vraiment comme si j'avais été au tableau, au coin, tu sais. Comme ça.
Et une autorité, j'ai compté autorité.
Plus ou moins jusqu'à 60.
Voilà. Et là, on revoit les images du petit Cyril avec son bonnet d'âne. Parce que sous la Troisième République, on avait le bonnet d'âne à l'école. Et c'était voilà, un beau moment.
Et vous étiez à côté tous les deux en scooter.
Oui, on s'est retrouvés.
Fortuitement.
Et en plus, tu m'as fait signe de te suivre sur la voie de bus. J'ai dit, mais combien il y a les flics qui sont là, on vient de les voir. On vient de les voir à côté de nous.
Je me suis dit, le con, il vient pas.
Mais rentre ensemble, les gars, ce sera mieux, je pense.
Non, soyez pas jaloux, ça va. Écoutez, Quentin.
France Inter. Zoom, zoom, zen. Noël.
Alors Blanche Léridon, vous allez nous dire. Effectivement, c'est une belle anecdote,
oui,
Manon. Oui, effectivement.
Je crois c'est que pas ironique.
Hein. J'ai senti l'ironie. C'est pourquoi demain vous démarrez le quiz avec 2 points de pénalité. Oh. Blanche, vous allez nous dire ce que vous avez pensé du nouveau livre de Jordan Bardella. Juste le temps de vous présenter le reste de l'équipe, ceux qui ne sont pas poursuivis par la justice. Donc, comme il faut aussi retrancher Quentin de l'équation, ça nous laisse une personne, Manon Mariani. Manon, chaque après-midi, vous analysez pour nous l'actu des réseaux sociaux au programme de votre veille sanitaire.
De 2 à 12 mois de prison avec sursis ont été requis hier par le parquet de Paris. Contre les cyberharceleurs de Brigitte Macron. Un procès qui a fait du bruit et qui prouve que le cyberharcèlement est de plus en plus médiatisé et pris au sérieux par les autorités. Je vous parle de cette bascule dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Blanche, son casier judiciaire, lui, ne l'est pas. Et d'ailleurs, c'est une chance que la mésaventure d'hier soit arrivée à Cyril et pas à lui, car si les motards de la police avaient pris en chasse Quentin, le Valentino Rossi d'Alençon, le Ayrton Senna du fer à repasser chinois, on ne serait pas sur un rappel à loi, mais sur un délit de fuite. Car Quentin aurait frotté la béquille et semé les deux motards dans les rues de Paris qu'il connaît comme sa poche, jusqu'au drame.
Oh non !
Oh merde, arrête ! Pas de bol quand même. Quentin, chaque après-midi, vous lisez pour nous la PQR, et on part où aujourd'hui ?
On parle aussi de la France.
Pauvre Arek.
Arek va bien.
Oui, il va bien. On ne sait pas. Bon, cette fois-ci, on ne va pas en Bretagne, on va dans le sud de la France. On parle souvent des drones qui vont venir un jour livrer jusqu'à nos fenêtres. Et si les premières livraisons par drone concernaient plutôt les hôpitaux, c'est ce qu'on essaie de faire du côté d'Aix-en-Provence. Je vous raconte à 17h30.
Côté humour, on avait eu le pressentiment de ça lors de notre délocalisation à Marseille quand Manon s'était fait embrouiller devant une boîte qui diffusait du hip-hop. Mais une enquête le confirme. Le rap français a partie liée avec le narcotrafic. Marie Debreur vous en dit plus. Juste avant 18h, vous retrouverez Marwan Benlazer qui lui aussi a essayé de lire le livre de Jordan Bardella. Et puis, profitons de lui avant son transfert à la santé demain matin. Cyril, je sais que vous êtes encore tout tourneboulé par votre mésaventure d'hier, mais je sais que vous allez vous ressaisir et nous offrir un Lacar News d'anthologie. Oui. Les 3 infos que vous aurez hâte de raconter à la maison ce soir.
Une vente aux enchères exceptionnelle, ça se passe dans 2 heures chez Drouot. Les joueurs de foot français font exploser les compteurs des transferts et le succès totalement inattendu d'un film. Film réalisé par un garçon qui chantait ça.
C'est vieux, hein.
J'adore Manu Chao. Le Lacar News, ça sera juste avant la demi. Mais d'abord, Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, est avec nous pour décrypter le phénomène d'édition qui est devenu Jordan Bardella. Dans son dernier livre qui sort aujourd'hui, le président du RN raconte ses rencontres avec les Français. Ça s'appelle « Ce que veulent les Français ». C'est quoi la stratégie? Les Français aiment qu'on leur parle d'eux. Et donc, Bardella s'était dit que c'était la bonne option.
Alors, une partie des Français plébiscite Jordan Bardella, d'une part. Et effectivement, il y a eu un succès de librairie avec son premier ouvrage. On pouvait s'interroger, à peine un an plus tard, sur le contenu d'un second livre. Alors, sachant que lui dément l'idée d'avoir écrit une autobiographie ou un livre politique, lui, il dit que son premier livre était un témoignage. Et bien, il poursuit cette dynamique du témoignage. Sauf que là, ce sont le témoignage d'autres Français à qui il donne la parole. C'est une vingtaine de portraits, cette espèce de galerie où on rencontre un certain nombre de figures un peu type. On a Olivier, le petit boulanger d'un village de la Marne. On a Pascal, la magistrate. Arthur, le militaire. Samantha, l'aide-soignante.
Mais tous vont dans son sens ?
Tous viennent nourrir une partie de son programme. C'est-à-dire que, par exemple, interroger l'agriculteur, c'est aussi une opportunité pour lui de montrer l'inanité d'un certain nombre de réglementations bruxelloises. Parler des pêcheurs, c'est un petit peu la même chose. Parler du petit boulanger de la Marne, c'est montrer l'effet de la guerre en Ukraine sur le prix de d'électricité ou de la farine sur ces petits commerçants-là et le fiasco de la politique étrangère d'Emmanuel Macron en la matière. Donc ce sont certes des Français qui s'expriment par ce biais-là, mais c'est aussi un moyen pour lui de venir reposer un certain nombre de ses idées politiques.
Mais au fond, il dit aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre. Est-ce que c'est pas la marque des populistes, ça ?
Absolument. Qu'est-ce que c'est le populisme ? C'est prétendre un accès à un lien direct, sans intermédiaire, entre un homme et le peuple. Et c'est jouer sur un antagonisme profond et irréductible entre le peuple d'un côté, présumé pur et innocent, et les élites de l'autre, présumées corrompues. Bah, c'est exactement ça qui se fait, au sens vraiment académique du terme. C'est-à-dire le refus de l'intermédiaire et de dire, ben voilà, moi, il le revendique d'ailleurs à nombreuses reprises en livre, je vais les voir sans médias, sans presse, c'est quelque chose de direct, je suis juste là avec mon carnet. Et il y a eu juste une ou deux fois où, pour attirer l'attention sur une problématique donnée, où il va être accompagné par toute une délégation de médias. Mais oui, l'idée, c'est de revendiquer. Mais voilà, on n'est pas dans un travail de sociologie et rien ne nous dit que ces 20 Français sont représentatifs de l'ensemble de la société française.
Mais vous dites quand même que ce livre participe à la présidentialité de Bardella.
Absolument. En France, on a cette particularité, cette espèce de conviction que pour accéder à la présidentialité, c'est-à-dire non pas à la fonction suprême, mais à la crédibilité pour être candidat, il y a une espèce de chorégraphie, un certain nombre de figures imposées. Et parmi ces figures imposées, il y a le livre politique. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sésame, très longtemps, le RN n'a pas pu y avoir accès. Marine Le Pen, il n'y a pas de grand livre équivalent à grand livre, je veux dire en termes de vente et d'épaisseur par ailleurs. Tout simplement parce que l'écosystème de l'édition, il y a encore 5 ans, n'était pas du tout favorable. Ouais. Marine Le Pen, en 2012, elle publie un livre qui s'appelait à l'époque... Pour que vive la France, qui avait été publié par une petite maison d'édition assez confidentielle qui était spécialisée dans la cuisine, le bien-être et la tarologie. En faisant un petit peu d'archéologie médiatique, j'ai retrouvé un article du Monde qui était sorti le jour de la publication du livre, qui s'ouvrait sur une citation anonyme de quelqu'un qui travaillait dans une grande maison d'édition et qui disait ceci. Publier Marine Le Pen, c'est comme publier un tueur en série ou un assassin d'enfants. Le scandale est assuré, quel que soit le propos du livre, donc on ne le fait pas. Et je trouve que cette petite phrase de 2012, donc d'un membre d'une maison d'édition qui sous couvert d'anonymat, elle dit tout du changement de monde dans lequel on est aujourd'hui, où il n'y a plus du tout, et ça montre bien la stratégie de la dédiabolisation et son efficacité.
La caisse de résonance médiatique et dans les maisons d'édition, on va en reparler juste après, parce qu'effectivement, ça montre que la fenêtre d'Overton s'est bien ouverte. À suivre dans Zoom Zoom, avis aux amateurs. Si vous rêvez d'un dîner en tête-à-tête dans un restaurant étoilé avec Manon Mariani, rendez-vous ce soir pour une vente aux enchères caritative chez Drouot. Le dîner avec la Marianoche fait certainement partie des lots. Cyril vous en dit plus dans son Lacar News, juste après Them, Gloria sur Inter. Street. Watch you come to my house.
À suivre dans Zoom Zoom, les drones à la rescousse des hôpitaux pour transporter les analyses. C'est nouveau, ça vient de sortir, et bien sûr, Quentin est sur le coup. Et puis, un miracle dans les salles. Sacré-Cœur, un film à la gloire de Jésus-Christ, notre sauveur, quasiment coécrit par Pierre Courade, triomphe actuellement au cinéma. Cyril vous dit pourquoi. Mais pour l'heure, on en revient à notre sujet fil rouge cet après-midi, le nouveau livre de Jordan Bardella. Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, est toujours avec nous pour décrypter le succès en librairie du jeune président du Rassemblement National. Alors Blanche, je le disais l'an dernier, l'autobiographie de Bardella s'était vendue à plus de 200 000 exemplaires dans le monde de l'édition. Enfin, c'est énorme, 200 000 exemplaires. C'était une surprise ou on s'attendait à un tel succès ?
Non, c'était une surprise. Alors, il y avait déjà eu les livres de Philippe de Villiers qui étaient parus quelques mois avant, ceux de Nicolas Sarkozy qui avaient aussi très très bien fonctionné. Mais il faut quand même avoir en tête qu'au-delà de ces exceptions-là, le livre politique en librairie marche relativement mal et on est sur des chiffres qui sont infiniment plus faibles. Il y a énormément de politiques qui ont publié ces derniers temps, y compris d'anciens présidents de la République, par exemple François Hollande qui a écrit un livre sur l'histoire de la gauche qui s'est, je crois, vendu à moins de 10 000 exemplaires.
C'est étonnant, idem, parce qu'il était venu ici, ça m'étonne qu'il en ait.
Voilà, idem pour Elisabeth Borne qui a livré une espèce de témoignage sur ses 20 mois à Matignon et là encore, les chiffres étaient très très faibles. Donc oui, il n'y a pas de garantie et même au contraire, le livre politique a plutôt du mal à se vendre, du fait notamment de la pléthore de livres qu'il y a aujourd'hui dans les librairies. Mais voilà, là, on avait un Jordan Bardella qui avait eu le succès qu'on lui connaît aux élections européennes, qui avait eu aussi, et peut-être qu'on va en parler, parce que pour moi, il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il renvoie sur les réseaux sociaux et ce qu'il essaie d'incarner via ses livres, mais on a quand même quelqu'un d'une très forte notoriété qui suscite une adhésion d'une partie des Français et une curiosité d'une partie des autres. Après, il y a aussi un phénomène d'achat du livre par le parti, mais malgré tout, ça reste un phénomène de librairie assez rare dans des chiffres pareils pour des livres politiques.
Vous dites qu'il n'y a pas de contradiction entre le Jordan Bardella des réseaux sociaux, mais l'air de rien, sortir un livre, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Est-ce que l'édition rend sérieux ? Vous parlez de la figure du président écrivain.
Bien sûr, bah ça, la figure du président écrivain, depuis le début de la cinquième, elle est absolument indispensable. Et alors là, je ne veux surtout pas mettre de signe égal avec les personnalités que je vais citer, mais le général de Gaulle était un immense écrivain. François Mitterrand aurait aimé être un écrivain. Valéry Giscard d'Estaing, et d'ailleurs, a été beaucoup moqué à cause de ça, aurait aimé être écrivain. On a un certain nombre de ministres, Bruno Le Maire, pour ne citer que lui, qui ont des velléités littéraires. Donc il y a cette tradition française et il y a cette espèce de sentiment, encore une fois, que c'est un passage obligé et que pour accéder à cette crédibilité et cette légitimité-là, il faut avoir son livre politique. Et je crois, encore une fois, que ce que fait Jordan Bardella ici, c'est un peu la même chose que ce qu'il fait sur TikTok. C'est cette désintermédiation. C'est de dire « Je veux ce lien direct avec les Français. Je suis votre voix, je suis votre incarnation et je n'ai pas besoin d'intermédiaires, je n'ai pas besoin des médias. » Et même là, j'ai même plus vraiment besoin d'un parti parce que le RN est un petit peu
Mais justement, Blanche, c'est ça qui est un peu étonnant. Moi, je suis Marine Le Pen, je vois ça, je m'étrangle.
Voilà, alors, il y a un petit paragraphe qui lui est...
C'est bien gentil, mais elle doit quand même l'avoir mauvaise, non ?
À la page 383. Ah ben elle était au premier rang à Marigny hier pour l'applaudir. Et puis, il représente aujourd'hui l'avenir du parti, j'imagine, pour Marine Le Pen. Je ne sais pas comment est-ce que ce livre a été reçu, mais effectivement, c'est un livre plutôt qui parle de lui, qui parle des Français, où Marine occupe une place assez marginale.
Vous écoutez France Inter, il est 17h27.
Il aurait dû écoper de 90 euros d'amende et 2 points sur le permis de conduire pour circulation avec un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux bus et aux vélos. Cyril Lacarrière aimerait cet après-midi remercier Jordan Bardella, car la légende dit que si les deux motards de la police ont choisi de ne pas le verbaliser, c'est parce qu'ils ont vu dépasser de sa besace le livre « Ce que veulent les Français », indiquant à la maréchaussée que Cyril en était un bon, justement, de français. Émoji, clin d'œil, circuler, il n'y a rien à voir, monsieur Lacarrière. Et ça fait nos affaires, puisque voici le Lacar News. Les 3 infos qu'il aurait été criminel de rater en ce 29 octobre, et on démarre, Cyril, avec la vente aux enchères du jour.
C'est dans 2 heures chez Drouot, à Paris, 40 lots avec tous la même mise à prix, 500 euros, avec quelques exemples. Une visite du marché de Rungis avec son directeur, un tournage avec Franck Dubosc, un cours de cuisine avec Norbert Tarrère, une répétition avec le danseur
étoile... Non, n'écoutez pas les autres, Cyril.
Norbert Tarrère, oui. Une répétition avec le danseur étoile Guillaume Diop.
Ah, pas mal.
Un dîner en tête-à-tête avec François Hollande. Oh. C'était plus drôle avec Nicolas Sarkozy à la santé, mais tant pis. Et il y a même un tournage de Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Ah. Ça, vous pouvez le faire gratuitement avec un DM à Mathieu.
Oui, ça va vite, oui.
Cette vente aux enchères, c'est pour la bonne cause, celle de la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand, qui œuvre pour l'écologie depuis 20 ans.
Les joueurs qui ont la cote du jour.
Les Français, mon bon Noël, selon l'Observatoire du football du Centre international d'études sportives, sur le marché des transferts, les joueurs de foot français font exploser les compteurs. Depuis presque 10 ans, les transferts de ceux qui ont été formés en France ont généré près de 4 milliards d'euros. C'est plus, beaucoup plus que les 2,5 milliards des joueurs venus du Brésil ou des Espagnols, des Portugais ou des Néerlandais. On l'a encore vu l'été dernier avec la folie du transfert, notamment celui de Hugo Ekitike qui a été acheté par Liverpool pour 95 millions d'euros ou Ryan Cherki 45 millions par Manchester City. Une nouvelle preuve de l'excellence de la formation à la française.
Mais oui, bravo nous. Et enfin, le carton du jour, Cyril.
Plus de 250 000 entrées en 4 semaines d'exploitation pour ça.
C'est un lieu où Jésus est apparu, c'est un des seuls lieux, je crois. Moi, j'y allais dans l'optique de voir et tout, et que la sœur, après, me laisse tranquille.
Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes.
Le cœur de Jésus-Christ, en l'occurrence, un extrait de la bande-annonce du film Sacré-Cœur, véritable phénomène actuel dans les salles de cinéma, l'histoire d'une sainte du XVIIe qui aurait reçu le cœur brûlant d'amour du Christ en personne, un film dont personne n'aurait pu entendre parler, mais dont tout le monde parle désormais, grâce notamment à la SNCF et la RATP qui ont annulé sa campagne de pub, donc ça a fait parler, surtout les médias du groupe Bolloré qui en ont fait leur beurre, hurlant évidemment à la censure, vous connaissez la rengaine, et ça a marché, puisque le film est passé de 150 copies à près de 350, un chiffre qu'on réserve en général aux sorties des films à gros budget. Derrière ce succès, il y a donc un peu de cette médiatisation bolloresque, mais ce qui est intéressant, c'est que le film est aussi coproduit par Canal+, Canal+ qui appartient à Vincent Bolloré, et si généralement le milliardaire fait attention à préserver Canal de ses marottes idéologiques, Sacré-Cœur pourrait en fait annoncer un changement de cap. Et bientôt, il pourra faire encore mieux, car Bolloré va prendre des parts de UGC, donc de leur salle de cinéma, et c'est comme ça que la boucle sera bouclée. Les films seront financés par Canal, Europe 1, CNews et le JDD en feront la promo, ouais. Et les salles UGC les diffuseront plein pot. Voilà une sacrée machine qui se met en place.
J'aime quand l'éditorialisme média renaît de ses cendres, comme ça, tel le phénix. Bravo, mon cher Cyril. Dans sa France, à lui, direction au miracle, non pas la Normandie, comme d'habitude, mais le sud de la France, Quentin.
La ville de Pertuis, Mathieu, mais aussi Aix-en-Provence. En fait, je vais vous parler des deux villes. Pourquoi ? Parce que là-bas, on dit aussi l'hôpital d'Aix-Pertuis comme une seule entité de soins du secteur, mais avec 2 hôpitaux. Et là-bas, vendredi dernier, il s'est passé ça.
3, 2, 1.
Le journal La Provence en a fait une vidéo sur sa page TikTok. Manon, ne riez pas. La Marseillaise
il
en parle également.
Il n'a pas heurté Arec en plein vol.
C'est un vol d'essai de drone. C'est un décollage, hein, finalement. Le but, la livraison par drone entre 2 hôpitaux en 20 minutes. Le projet s'appelle Medical Delivery et il devrait permettre d'ici 3 ans la livraison d'échantillons biologiques, donc essentiellement des tubes de sang ou d'urine, par les airs. Et c'est une petite révolution parce que l'hôpital de Pertuis n'a pas de laboratoire, par exemple. Toute une gamme d'analyses doit être faite à Aix et en transit pour l'instant par la route. Le drone Tundra, que vous venez d'entendre, est capable de transporter jusqu'à 5 kilos de matériel. Ce que vous avez entendu n'était en fait qu'un décollage de démonstration destiné à faire parler du projet, car pour l'heure, il bataille pour obtenir des autorisations de vol dans un secteur qui est plutôt habité. On ne peut pas survoler comme ça une zone d'habitation, et encore heureux d'ailleurs, mais visiblement, le projet avance pour faire évoluer la réglementation tout en protégeant la vie privée des habitants, Mathieu.
Enfin, pour les analyses d'urine de Pierre Courade, il faudra quand même de très gros drones. Hein. Mais derrière cet exemple,
plusieurs
Quentin,
litres.
Effectivement, c'était une esquisse du futur de notre santé qui se dessine, en fait.
L'enjeu, c'est le temps, Mathieu. Gagner quelques dizaines de minutes entre deux hôpitaux, c'est parfois sauver une vie pour un diagnostic urgent, une transfusion, ou alors, imaginons, pourquoi pas, une greffe, un jour. Ces drones pourraient, à terme, relier aussi des zones où les laboratoires manquent, où les déserts médicaux s'installent de plus en plus. La région PACA, en mettant en lumière ce projet, dessine peut-être un bout du futur et devient un terrain d'essai du soin 4.0, où nos urgences voyageront peut-être bientôt à 120 mètres d'altitude, Mathieu.
Merci beaucoup, Quentin. Blanche Léridon, on sait qu'un des moteurs du vote Rassemblement National dans les zones rurales, c'est la disparition des services publics. Alors là-dessus, j'imagine que Bardella doit en parler dans son livre, il doit avoir trouvé des témoins pour en parler. Les gens pensent vraiment que le RN pourrait faire mieux.
Ah oui, il y a, nous, on suit de très près, notamment grâce à la grosse enquête qu'on fait à l'Institut Montaigne avec Ipsos Fracture Française. Et il y a une adhésion assez importante de gens qui se reconnaissent du côté du Rassemblement National et qui n'expriment pas du tout ce vote comme un vote de Rogier ou un vote contestataire, comme ça a pu être longtemps le cas, mais un vrai vote d'adhésion et qui sont convaincus qu'eux, effectivement, pourraient faire mieux que les équipes en place.
Elon Musk ne dort plus depuis qu'il a entendu la chronique au vitriol qu'elle a faite sur lui hier. Aujourd'hui, c'est un secteur entier qui tremble alors qu'elle s'approche du micro, celui du rap. Bonjour Marie de Breuer.
Bonjour. Oui, aujourd'hui sort un autre bouquin que celui de Bardella. Celui de trois journalistes qui ont enquêté pendant 2 ans sur le rap français. Et j'ai déjà lu le livre parce que je suis ce qu'on appelle une lectrice rapide.
Oui.
Voilà, et je vous dis ce que j'en ai pensé dans ma chronique.
La chronique de Marie, c'est juste après Isha et Limsa Dolné. Fin de ce monde sur France Inter.
Ils tiennent des propos dénigrants sur nos frères, sur les migrants. Les rois du monde, ils sont délirants. Y en a même un qui veut bombarder l'Iran. Ils vivent comme des rois, des ducs et des vicomtes. Ils veulent nous faire croire que toutes les vies comptent. La police ne nous aime pas, donc nous l'évitons. On est des rescapés, on est sous, je le dis dans chaque morceau. Et là, tu vas pas y échapper. Je suis là depuis l'époque du 113 clan. Wesh Rimka, wesh AP. Eh. Et là, je veux qu'on me laisse rapper. Je suis content quand dans mon frigo y'a du shit. Je suis content quand dans mon frigo y'a du lait. J'ai fait des faux pas, faut pas m'aduler. Si peu d'essence, tellement de choses à brûler. Elle veut rentrer dans ma tête comme Babidi. Quand y'a du bon bédo et de la bébida, je me sens comme Tristan Cara et Pépita. Le talent ne suffit pas comme l'a dit Curdy. J'ai quitté Alice Cordier pour Annie Cordy. Nique ceux qui nous voient comme des animaux, qui viennent de Paname ou de la Picardie. Quand je les vois jeter tous mes refs du cargo, je ressens une maxi colère de la tachycardie. Imagine Maxi Lopez qui tachycardie. Quand je guette les infos, moi il me faut 10 secondes pour maudire ce monde. Hey. Quand je guette les infos, moi il me faut 20 secondes pour souhaiter la fin de ce monde.
Walim, ça, y'a que toi qui sais. Pourquoi je parle pas ces derniers temps? Pourquoi j'ai mal ces derniers temps? Que j'écris moins ces derniers temps? J'avais plus d'inspi mais merci Seigneur. T'as envoyé quelqu'un qui m'a brisé le cœur. Trois Isha heureux, ça rappe beaucoup moins bien qu'un Isha qui pleure. Et deux Isha qui pleure, c'est beaucoup trop chaud. Ça ramène tout Brooklyn comme quand B.I.G. meurt. Encerclé par des jeans mélancoliques qui m'encouragent à fuir et rester dans mon lit. Je croyais que c'était à cause du pilon moi, mais j'ai arrêté de pédasse depuis. Je retrouve toujours de la moisissure chaque fois que je découpe une tranche de vie. J'ai pas envie de parler business, pas envie de parler affaires. Tu vois pas qu'on est les damnés de la terre. Un petit Africain attaché au dos de sa mère avec un wax. C'est plus confortable quand les tantines ont grossi. J'avais la même pose que Valentino Rossi.
Quand je guette les infos, moi il me faut 10 secondes pour maudire ce monde. Hey. Quand je guette les infos, moi il me faut 20 secondes pour souhaiter la fin de ce monde.
Inter. Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
Dans quelques minutes maintenant, Manon nous dira pourquoi les procès pour cyberharcèlement se multiplient, pourquoi c'est une bonne chose. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Marie de Breuer, car vous revenez aujourd'hui, vous aussi, sur un livre. Trois journalistes ont enquêté sur le rap français.
Alors le rap, pour les auditeurs et auditrices de France Inter, c'est la musique qui passait jamais sur l'antenne parce que c'était pas cool en 2011, mais qui maintenant passe tous les jours parce que c'est cool en 2025. Alors qu'on le rappelle, hein, un des gars qui choisit la musique pour cette radio porte des bérets. Il y a des roues flaquettes, voilà, ce qui n'est plus du tout cool depuis 1976. Hein. Le gars fait venir son barbier tous les matins dans son bureau, bureau qui est décoré avec des vinyles. Hein. Il a beaucoup trop de responsabilités, ce type, alors qu'il met des cravates imprimées notes de piano. Hein. Ça me rend dingue, quoi. Pardon. Bon, le livre sur le rap français s'appelle L'Empire et parle des liens entre certains rappeurs et les organisations criminelles qui s'en prennent parfois aux artistes pour leur argent. Je crois que c'est le même sujet que la série Validée. Enfin, je sais pas, j'ai regardé que la saison 1 et j'avoue, je me rappelle de rien. Enfin, j'ai passé les 10 épisodes à lécher les abdos d'Attique sur l'écran de ma télé comme ça et à cracher quand il y avait Gaston Bide. Enfin, j'ai rien écouté et j'ai ruiné un écran plat 75 pouces qui était tout neuf. Bref. Le livre a été écrit par trois journalistes très sérieux qui ont mené l'enquête pendant 2 ans et ont fait un livre loin des clichés, hein, qu'on attribue au rap français. Après, il y a un des journalistes, il a une chevelure poivre et sel, et je suis prête à parier une couille qu'il est fan d'Orelsan. Hein, Orelsan qui est fan du Japon. Et le Japon qui est fan des petits jets d'eau qui nettoient le trou de balle. Oh. Et le trou de balle qui est fan de Kaamelott. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, bah merci messieurs les journalistes, hein, pour le bouquin. Mais moi, j'ai écouté tous les albums de Jules et j'avais déjà les infos. Hein. Il y a une chanson de Jules où il dit « Je suis tellement parano, j'ai plus confiance en mon voisinage, à la société de jardinage. » Genre là, ça se trouve, Jules, il a peur du gars qui tond la pelouse. Bah oui, ça se trouve, il est obligé de s'occuper lui-même de ses bégonias. Enfin, et mauvaise nouvelle pour les bégonias, puisque Jules a aussi écrit « Mon cœur est une fleur, il me reste une pétale. Hein. » J'ai pas la main verte, mais s'il reste une pétale, bah, ça craint un boudin, comme on dit. Enfin, la vraie mauvaise nouvelle, hein, pour les gens qui aiment Jules comme moi d'amour, c'est que pétale est un mot masculin. C'est un pétale, Julien, un pétale, un tentacule, un testicule, un stade de France, voilà, un petit moyen mémotechnique comme ça. Je l'aime trop, Jules, voilà, parce que bah, je suis une bourgeoise qui bosse chez France Inter. Mais attention, Jules, c'est pas France Inter, non. SCH, ouais. C'est France Inter, oui. C'est quoi la différence entre Jules et SCH? Et bah, c'est l'arrêt au milieu. Voilà. Non, c'est tout, c'était ma blague. Dans le bouquin, il parle aussi des liens entre les rappeurs et les grandes maisons de luxe. Alors, je veux pas vous spoiler les anecdotes sur la Fashion Week, mais apparemment, au défilé Jacquemus, Damso a passé 20 minutes à frotter des brindilles de lavande entre ses mains pour les sentir très fort comme ça, parce que ça sent bon. Et oui, c'est vrai, Damso, ça sent bon la lavande. Voilà, une véritable passion fleur, les rappeurs. On apprend dans l'enquête que les organisations criminelles s'en prennent aux rappeurs parce que c'est une industrie avec beaucoup d'argent. Hein. Après, attention, c'est pas parce que quelqu'un passe à la radio qu'il y a beaucoup d'oseille. Hein, moi, je dis ça, si jamais quelqu'un avait prévu de m'enlever pour demander une rançon, bah, au max, vous allez rembourser la loc de la camionnette. Enfin, bah oui, il faut une camionnette. Hein. Bah, non, je rentre pas dans le coffre de la Clio 2 ou de l'Audi TT, quel que soit le véhicule. Il faut minimum 12 mètres cubes. Voilà, j'aurais prévenu. Si vous voulez des sous, c'est Mathieu Noël qu'il faut prendre. Après, pas sûr que quelqu'un vous donne une rançon non plus. Hein. Vous n'aurez aucun cadeau. Le Père Noël porte très mal son nom.
Merci Marie des propos d'une mesquinerie qui frôle la diffamation, sachant que je vous ai apporté pas plus tard qu'hier une boîte de 20 muffins myrtille et qu'en retour, je n'ai même pas eu une place pour votre spectacle que je réclame depuis 2 mois maintenant, même pas un strapontin. Mais ne lavons pas notre linge sale en public.
Vous avez payé les muffins ?
Non, je les ai fait moi-même.
Ah oui, c'est vous avez femme. Oui, voilà.
Ma femme qui a fait les muffins, évidemment.
Voilà. J'ai mangé la moitié.
Si je peux c'est ma femme qui veut. Un petit commentaire, il n'y a pas que le livre de Jordan Bardella qui sort aujourd'hui, mais il y a aussi un petit dictionnaire de Jules. Je ne sais pas si vous aviez vu ça.
C'est vrai.
Qui sort aux éditions Lattès.
176 mots qui un peu sont
c'était l'info en plus de l'invité. Voilà, ouais. Une nouvelle chronique dans cette émission.
Faut qu'on nous l'envoie.
Merci
pour Marie.
Beaucoup Marie. Blanche Léridon, je le disais, c'est un véritable embouteillage de livres écrits par des leaders de la droite dure, on va dire, auxquels on assiste. Philippe de Villiers il y a 3 semaines, Éric Zemmour la semaine dernière, maintenant Jordan Bardella. Pourquoi l'extrême droite fait vendre? Est-ce que à l'heure de l'économie de l'attention, ce qui fait vendre, c'est pas la pondération, c'est plutôt les réponses simples, les réponses choc, ou c'est plus vicieux que ça? Il y a surtout un système de l'édition qui s'est mis en place pour les soutenir.
Il y a un petit peu des deux, et au-delà de l'extrême, il y a aussi cette espèce de tonalité un peu anxiogène qui transpire des livres en particulier de Philippe de Villiers, populicide, mémoricide, on voit à quel point ces termes-là, ils sont chargés sémantiquement. Et donc c'est un petit peu le même fonctionnement que sur les réseaux sociaux où vous jouez sur cette rhétorique-là, un petit peu de la peur, du déclin d'une France présumée perdue. Et donc ça se transforme effectivement pour un certain nombre de personnes qui adhèrent aussi a priori à ces thèses-là en achat en librairie. Mais attention, qui dit achat en librairie ne dit pas transformation nécessairement en vote. Éric Zemmour, en dépit de ses excellents chiffres, n'a pas réussi à obtenir de victoire électorale. C'est la même chose pour Philippe de Villiers. Donc il faut faire très attention à ne pas créer de corrélation. Et même si on parle de 100 000 livres, 100 000 électeurs, c'est beaucoup, mais c'est pas ça qui fait une majorité dans le pays.
Ça me fait penser à un autre livre de chez Fayard qui est sorti en 2021, de Cyril Hanouna, qui s'appelait « Ce que m'ont dit les Français ». Est-ce qu'il s'est inspiré aussi, qui avait été aussi un succès, en tout cas on en avait parlé à l'époque, est-ce qu'il s'est inspiré de ça pour faire ce livre ?
Alors je ne suis pas dans la confidence de Jordan Bardella et de ses équipes, mais il est possible effectivement que cette démarche-là ait pu l'inspirer et voilà, se revendiquer d'une certaine forme de proximité du peuple. On a parlé de la couverture de ce livre. On aurait pu aussi parler de la quatrième. Normalement, la quatrième, vous savez, il y a du texte.
Il faut la décrire aussi. Oui,
là, il n'y a pas de texte. Et donc, je vous évoquais tout à l'heure les couleurs un petit peu sombres qui devaient dégager cette sensation de sérieux. Un Jordan Bardella à son bureau, dans un intérieur. Et bien derrière, c'est tout l'inverse. On a un grand ciel bleu, on a un champ avec des vaches. Et puis, Jordan Bardella de dos qui regarde vers l'horizon avec probablement à ses côtés un agriculteur. Donc voilà, ça veut dire regardez, moi, pendant que d'autres sont à Matignon à faire des tractations politiques, et bien moi, je suis dans l'herbe avec les Françaises et les Français.
Manon.
Le point commun entre De Villiers, Bardella et Sarkozy, c'est aussi leur éditeur, on l'a évoqué, Fayard, la maison d'édition du groupe Bolloré. Est-ce qu'on est face à un phénomène inédit dans l'édition aujourd'hui, pouvoir être édité et de bénéficier de la force de frappe médiatique du même groupe ?
Bien sûr, il y a des relais à la fois sur des chaînes de télévision, sur des chaînes de radio, mais c'est aussi un relais et souvenez-vous, ça peut être aussi un obstacle. Souvenez-vous de la polémique l'année dernière sur Mediatransport qui avait refusé de publier des affiches. Oui. Alors, ce qui avait finalement été une controverse qui avait été plutôt retournée en leur faveur parce qu'on avait pu jouer la posture du martyr qui était marginalisée des cadres de communication habituels. Donc, on joue toujours sur cette tension-là, en fait.
Il y en a un qui s'est servi de l'apparition de ses livres pour transformer ses séances de dédicace en autant de mini-meetings, en tout cas des rencontres, c'est Nicolas Sarkozy. Absolument. C'est aussi la stratégie que va adopter Jordan Bardella. On va le voir aller de librairie en librairie, serrer la main. Serrer la main des Français qu'il raconte.
Probablement, alors il y aura aussi, je pense, une stratégie d'image à jouer, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où, si vous voyez un homme ou une femme politique d'ailleurs passer ses journées dans des librairies à signer des livres, on peut se demander, étant donné la gravité de la situation par ailleurs, alors même si lui n'a pas de responsabilité au Parlement en France, mais uniquement au Parlement européen...
Bon, quand il est au Parlement européen, il aurait eu le temps de faire des séances de dédicace aussi.
Mais non, mais on pourrait s'attendre à ce qu'il soit plutôt aussi auprès de ses électeurs, plutôt sur le terrain, ou au Parlement européen ou à organiser avec son parti, puisqu'il prétend qu'ils sont prêts aller à Matignon dans le cas de nouvelles élections législatives. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit stratégiquement très malin d'aller courir toutes les librairies aujourd'hui. On va voir, moi j'ignore totalement quelle sera la stratégie de communication, mais effectivement, c'est un point qu'il faudra regarder d'assez près.
Blanche, j'aimerais attirer votre attention sur un autre livre qui devrait beaucoup intéresser les auditeurs d'Inter. C'est le très beau livre de Ségolène Royal, « Mais qui va garder les enfants ?» qui vient de sortir lui aussi chez Fayard. Et ça, c'est intéressant, parce que Ségolène Royal est une figure historique de la gauche, hein, on a peut-être oublié. Et elle publie aujourd'hui chez Fayard. Qu'est-ce qui se passe ?
Ben alors, je crois qu'elle avait déjà publié son livre précédent chez Fayard, et donc elle revendique la continuité avec les équipes. Mais oui, effectivement, il y a une espèce de... Les pistes sont un petit peu brouillées avec ce message-là. Alors, on sait qu'elle officie, je crois, aussi sur un certain nombre de chaînes. On a pu la voir sur CNews.
Elle était chroniqueuse sur C8.
Oui, sur C8. Voilà, donc j'ai pas encore lu ce livre. Je l'ai reçu aussi.
Ah, vous pouvez pas tout lire, donc je vais pas vous demander de lire le Jordan Bardella et le Ségolène Royal le même jour. J'ai un cœur touché à l'être humain.
La prochaine fois. Oui.
La prochaine fois, promis. Vous écoutez France Inter, il est 17h46. Mmh. Manon Mariani, aujourd'hui vous revenez sur le procès dont on a beaucoup parlé, l'affaire du cyberharcèlement de Brigitte Macron.
10 personnes étaient jugées devant le tribunal correctionnel de Paris lundi et mardi pour avoir cyberharcelé la première dame. Des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis et des amendes ont été requises hier par le parquet de Paris. Alors pour rappel, ça fait plus de 4 ans que Brigitte Macron est victime de transphobie à cause d'une fake news sur les réseaux. Selon certains, elle serait un homme. Des milliers de messages de haine l'accusent de cacher son véritable sexe et des campagnes de désinformation à échelle mondiale renforcent cette invention. Le procès des cyberharceleurs de Brigitte Macron a été évidemment très médiatisé. On parle de la première dame de France et c'est une bonne chose. Pendant des années, le cyberharcèlement n'a pas été pris au sérieux par les pouvoirs publics, dépassé par ce phénomène nouveau et pourtant destructeur. Aujourd'hui, on arrive peut-être enfin à un point de bascule salutaire sur le sujet.
Est-ce que vous pensez que c'est le début d'une nouvelle ère ?
Je pense que les autorités ont enfin compris qu'il ne s'agissait pas de cas isolés et que les répercussions d'un cyberharcèlement étaient beaucoup plus importantes qu'on ne le pensait. Et puis, c'est devenu une arme politique utilisée par certains partis quand ils ont une cible à abattre. L'extrême droite la manie à la perfection. Un autre procès pour cyberharcèlement a eu lieu cette semaine. En est la preuve, celui de la metteuse en scène Rebecca Chaillon. Un procès évidemment moins médiatisé que celui de Brigitte Macron, mais qui a tout de même fait la couverture de Libération ce week-end. Le journal a parlé d'un sursaut contre l'impunité virtuelle.
Ah, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire, Manon ?
En 2023, un spectacle de Rebecca Chaillon, Carte Noire nommée Désir, a provoqué l'indignation de l'extrême droite française sur les réseaux. Il avait vocation à dénoncer les stéréotypes racistes sur les femmes noires, mais la fachosphère y a vu une attaque personnelle. En cause, la photo pour illustrer le spectacle est celle de la comédienne de la pièce, Noire, qui embroche des poupons blancs. Éric Zemmour s'est empressé de dénoncer un racisme anti-blanc et a même parlé de génocide sur X, où il est suivi par plus de 550 000 personnes. S'en est suivi des milliers de messages racistes où la comédienne se fait traiter de guenon quand d'autres messages faisaient l'apologie de l'esclavage. Le tribunal de Paris a requis de la prison avec sursis contre 7 de ses harceleurs, dont ne fait pas partie Éric Zemmour, je le précise.
Mais est-ce qu'il risque vraiment une condamnation, Manon, ces gens ?
Oui, en fait, il y a bon espoir pour que les peines prononcées soient au moins aussi sévères que les réquisitions. On l'a d'ailleurs vu dans d'autres procès pour cyberharcèlement. Celui de Edith Préto en 2022, victime d'une vague d'homophobie en ligne. Des peines de 6 à 6 mois de prison avec sursis étaient requises et c'est ce dont ont écopé 11 de ses harceleurs. Pour la chanteuse Oshi, ça a même été plus loin. Les juges sont allés au-delà des réquisitions du parquet qui avait demandé 6 mois de sursis pour l'un de ses harceleurs. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme. La chanteuse avait aussi, elle, été victime de milliers de messages homophobes. Puis même chose pour Magali Berda, l'ancienne agente d'influenceuse harcelée pendant 2 ans par Booba et ses fans. En 2024, le tribunal correctionnel de Paris a condamné 28 de ses cyberharceleurs à des peines de prison allant jusqu'à 12 mois ferme pour certains. Une décision, encore une fois, supérieure aux réquisitions du parquet, qui avait rappelé lors du procès que l'espace numérique n'est pas une zone de non-droit. Et c'est pour que tout le monde le comprenne que ces procès sont importants et qu'en parler est important, le cyberharcèlement fait des ravages. Ceux qui en sont victimes racontent à quel point ça a ruiné leur santé mentale. Certains ont mis leur carrière en pause, d'autres ont été suivis par des psys. On a encore en tête le petit Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé suite au cyberharcèlement homophobe dont il était victime. Donc ne laissez rien passer. Si vous êtes cyberharcelé, portez plainte.
Merci Manon, je rappelle que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Mentionnez, c'est le nom de votre série de podcast qu'on peut toujours écouter sur l'appli Radio France. Oui. Blanche Léridon, avant que vous ne couriez l'écouter, est-ce que les campagnes de désinformation ou le trolling souvent utilisé par l'extrême droite, ça impacte vraiment, ça peut impacter les campagnes présidentielles ?
Absolument. Alors en France, il faut savoir qu'on s'est doté quand même d'un outil qui s'appelle Viginum, qui a précisément vocation à identifier les ingérences étrangères en période électorale. Et on sait qu'après ce qu'on avait subi en 2017, alors c'était un peu différent, hein, c'était pas du trolling, mais qui était une forme d'ingérence, on est quand même beaucoup plus préparé. On a vu dernièrement, et notamment pendant les élections européennes, qu'il y avait moins eu ça. Après, il y a d'autres pays qui sont extrêmement poreux. Je pense évidemment à la Roumanie. Vous aviez certainement suivi ce qui s'est passé l'année dernière avec ce candidat Calin Georgescu qui était totalement inconnu du grand public et qui, grâce à TikTok, est devenu et a réussi à se qualifier au premier tour de la présidentielle.
Mais il faut qu'on fasse attention, on n'est pas à l'abri de ça.
Voilà, exact. Nous non plus, non.
Faut pas se croire à l'abri. Lui aussi, il a adoré le nouveau livre de Jordan Bardella. Il regrette juste qu'il ne lui ait pas dédicacé. Bonjour Merwan Ben Lazar.
Je suis co-auteur. Voilà, je peux le dire maintenant à l'antenne, je suis co-auteur.
Je l'ai senti à la lecture.
Ma plume.
La chronique de Merwan, c'est juste après Lord Broken Glass sur Inter.
mystique instead. Last year was bad. I let myself get sucked in by arithmetic. Felt great to strip. To sleep about that, cheat about that, rot teeth about that. Did I sweat hours a week about that, compete about that, lose my freak about that, huh. All of the above. I wanna punch the mirror. Scared to quit, loosen my grip. It's tough to admit just how much I get from it. When I cry myself to sleep about that, cheat about that, get too deep about that. When I sweat hours a week about that, compete about that, letting her treat me like that. I think that's love. I wanna punch the mirror to make her see that this won't last. It might be months of bad luck, but what if it's just broken glass? Spent my summer getting lost in math, making weight took all I had. Won't outrun it if you don't hit back. It's just broken. France Inter, Zoom Zoom Zen.
Il vient d'ouvrir une deuxième session pour son spectacle vendredi soir, le premier étant complet. Un homme dont on peut dire légitimement et sans exagérer qu'il est au firmament du succès. Plus, ce serait indécent. J'ai d'ailleurs vu que vous rodiez votre spectacle au Lausanne Palace, Merwan.
Moi, maintenant, je joue que pour les nobles. C'est un nouveau cœur de cible.
Lausanne Palace, un hôtel, certes 5 étoiles, je connais un peu, mais pour dépanner, mais personnellement, je le trouve un peu cheap. Merci quand même de nous honorer de votre présence, Merwan Ben-Lazare.
Avec sa montre brillante, là. Bonsoir, tout le monde. Si. Alors, j'aimerais faire un petit point avant qu'on commence, parce que d'habitude, on a l'habitude, les humoristes qui viennent, souvent de démonter les sujets proposés à chaque fois, mais là, un grand merci à la rédaction. Quand c'est bien, faut le dire, il y a deux semaines, le livre de Patrick Sébastien, tu te dis, ok, ça régale. Cette semaine, le sujet, Bardella, pitié, on reste sur cette lancée, la team. On touche à rien, le mercredi sur Zoom Zoom. Quand je viens, il faut que ce soit régalade. Semaine prochaine, je peux faire une petite commande, le bouquin de Devilliers. Voilà, c'est tout ce que je demande. Bonjour aussi, Blanche Léridon, je l'ai bien dit. Vous êtes une spécialiste des questions démocratiques et éditoriales, mais vous n'avez que 12 000 abonnés sur Instagram et moi 137 000. Normalement, c'est à vous de faire une chronique sur moi, mais je sais aussi faire preuve d'humilité, jeune nobody. Donc, et surtout, je suis humble parce que je ne fais rien face aux 2 millions de fachos abonnés à Jordan qui vont acheter son bouquin. C'est quoi le délire des hommes politiques avec les bouquins? Ça, c'est un vrai truc. Anecdote de fou furieux. Dans mon world tour qui est en cours, j'avais... non, mais là, c'est blessant, par contre. Mais donc, j'avais... Attends, la phrase qui arrive après. Une date à Mulhouse. Et on commence petit, on élargit après. Et donc, je m'installe dans le TGV et le gars en face de moi en train de faire quoi? En train de lire le bouquin de Devilliers, justement. La dinguerie, sans honte. Comme ça, devant tout le monde, petite torche sur le grand remplacement. Dans le livre, les gars, ça emploie le mot sarrasin en full premier degré. Donc, il est en train de lire ça. Imagine, mets-toi un peu à sa place. T'es en train de lire un livre, tu lèves la tête, il y a le méchant. En vrai, de vrai, incroyable ou pas? Frère, j'étais en face de lui. Imagine, tu lis Harry Potter, t'es dans le métro, tu veux voir, t'es à quelle station? Là-bas, Voldemort qui tient le. Ou attends, non, j'ai un meilleur exemple. Imagine, t'es en train de lire Anne Frank, tu lèves la tête, Mathieu Noël. Frère d'Andry, en vrai, de vrai ou pas? Non, j'ai commencé fort. Attention. Là, je vais un peu loin. Mais ça parle. Je lui ai dit au mec, là, je lui ai dit, je te jure, il était en train de lire le truc et tout. Et à un moment, jusqu'à un petit ice contact et tout, je lui dis, tu veux que je te le dédicace ? Et il dit, comment ça ? Je dis, bah, ça parle quand même pas mal de moi, non ? Et il s'est rendu compte, en fait, sur le moment. Et il a regardé la couverture, ce fou, en mode, ah, il voit, et il l'a rangé, et il l'a caché. Et en fait, on tient un truc, il a eu honte, et c'est ça qu'il faut. Il l'a rangé parce qu'il a eu honte. Il faut remettre la honte d'être raciste à la mode. L'autre, en fait, si tu lui, tu le laisses faire ça, dans pas longtemps, il y a des gens dans le métro qui vont lire Mein Kampf. Non, il faut qu'ils aient honte, les gens, parce qu'ils sont en train de se normaliser, les fachos. Il faut qu'ils arrêtent de se dire, bah, il est comme nous. C'est un argument qu'on entend souvent justement quand on parle de Jordan Bardella, parce que dans notre imaginaire tout blanc, tout noir, un raciste, c'est un vieux boitant avec tu sais un cache-œil, parce que dans notre tête c'est ça. Et comme nous c'est soit tout blanc soit tout noir, ils en jouent parce que il y a des racistes à côté. Les gars, c'est des mecs super. Il y a il y en a un à Paris, il fait des trompe-l'œil incroyables. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que tu l'avais pas la référence, c'est pas grave, ça arrive. Mais exemple concret, Marine Le Pen, les gars, elle adore les chatons. Moi aussi. Moi et Marine, si on parle que de chatons tous les deux, eh ben ça match. Tu nous mets dans Love is Blind, on se voit pas, on parle que de chatons, je sais pas c'est qui. Les gars, je vais jusqu'au rendez-vous. Elle me parle de son filleul, elle me dit vous avez le même âge, tu verras, il est très suivi, il a un lapin, frère. Moi, si je sais pas tout le reste, on peut se plaire et on va se plaire. Enfin, je sais pas, mais c'est pas des avances, mais ça arrive. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que Hitler aussi, il cultivait cette image. Il allait voir les gens dans les campagnes, il avait même un chien, il s'appelait Blondie, et si je vais être taquin, Hitler, il a aussi écrit un livre. Ça en fait pas le meilleur choix politique pour autant, même si l'animateur de l'émission vous dit le contraire.
Bon, je vous en prie, Merwan. Vous servir de moi, mais pas comme ça. Merwan Benazar, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Merci Blanche Léridon d'avoir pris sur vous pour lire Ce que veulent les Français, le nouveau livre de Jordan Bardella. Ils l'ont pas écrit pareil sur la couverture et sur le communiqué de presse. Hein. Ils l'ont écrit CEUX sur le communiqué de presse. Je sais pas si c'est une petite,
un petit lapsus révélateur
ou une belle connerie tout simplement. Merci. Je rappelle Blanche que vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Merci à tous, les amis Manon, Quentin, Cyril, toute l'équipe en régie. À la réalisation, c'était Étienne Bertin. À la technique, Pauline Laverdure. Demain, on se retrouve dès 16h pour zoomer sur ce sujet encore un peu tabou.
La bouillard !
Pas tout à fait, Quentin. On zoomera sur le rapport des femmes au porno. Le témoignage de Manon sera précieux, évidemment, mais on aura aussi une invitée qui a réalisé une vraie enquête sur le sujet.
Zoom Zoom Zen.